ярче солнца. Шар превращается в колоссальный светящийся купол. Яркое свечение еще продолжается. В этом опыте возникло необычайно солнце.
Bonjour à tous, c'est Raphaël, vous écoutez le podcast Football Ski, voici le programme. Ce dernier podcast de l'année 2017 est un petit peu spécial puisque nous vous avions proposé de voter pour les sujets qui vous intéressaient le plus. Pendant une semaine, vous avez été nombreux à vous exprimer via les sondages que nous avions postés sur Twitter, et trois sujets marquants de 2017 se sont assez nettement détachés. Nous irons tout d'abord en Russie pour revenir sur la renaissance du Spartak Moscou, sacré champion après une très longue traversée du désert. Nous prendrons ensuite la direction de la Serbie pour essayer de comprendre les raisons qui ont poussé la fédération à se séparer de son sélectionneur juste après la qualification pour le mondial. Enfin, nous terminerons avec la République tchèque, où le Sparta et le Slavia Prague se sont particulièrement fait remarquer lors du dernier mercato estival. Commençons avec notre premier sujet. En mai dernier, au moment de livrer son verdict, le championnat de Russie a sacré non pas le CSKA Moscou, ni le Zénith Saint-Pétersbourg, habitué à figurer au premier plan ces derniers temps, mais le Spartak Moscou. Les Rouges et Blancs ont ainsi mis un terme à 16 années de disette et brillamment renoué avec leur glorieux passé. C'est précisément ce dont nous allons parler avec Vincent, qui est avec nous. Salut Vincent.
Salut Raphaël, bonjour à tous.
Vincent, c'est ta première intervention dans le podcast Football Ski. Bon, pour te présenter rapidement, on peut dire que tu écris régulièrement sur la Russie et tu as même vécu là-bas pendant un certain temps, c'est bien ça ?
Oui, absolument. J'ai vécu à Moscou pendant un petit peu moins de 9 ans. Et donc là, maintenant, je suis de retour en France. Ouais.
Et tu es donc un fervent supporter du Spartak Moscou. Pourquoi, au juste ?
Oh, tout simplement parce que le club me plaisait, notamment à travers son histoire, une histoire extrêmement riche, en rebondissements, en trophées. Et puis cette ferveur aussi populaire, notamment dans les stades, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Donc ça m'a tout de suite emballé. Ouais.
Pour préciser, c'est bien toi qui gères le compte Twitter du français du Spartak Moscou.
Oui, tout à fait. Oui. On vient d'ailleurs de passer les 1000 followers, donc c'est plutôt un bon Noël.
Tu étais à Moscou il y a quelques jours d'ailleurs, je me trompe ?
Oui, tout à fait. Ouais, j'étais passé un petit peu en vacances et puis ça m'a permis de retourner aussi au stade pour faire la visite du stade et puis regarder à nouveau le musée du Spartak qui est extrêmement riche.
Et alors, quel est ton avis sur la nouvelle Otkritie Arena ?
Oh, très bien, très bien. J'ai fait pas mal de matchs là-bas hein, quand j'y étais. C'est un stade très vraiment très confortable, on voit très bien, on est assez proche de la pelouse, et puis l'ambiance est toujours bien, notamment la tribune nord qui fait pas mal de bruit, donc on est vraiment à l'aise, les infrastructures sont très bonnes, le métro est juste à côté, donc on est en 10 minutes au stade, c'est vraiment très pratique, un très bon stade.
Avant tout, peux-tu nous dire ce que représente le Spartak au niveau du football russe ? Est-ce le club le plus populaire du pays ?
Alors d'abord, le Spartak, évidemment, en termes de palmarès, c'est l'un des meilleurs clubs de Russie, avec quand même 12 championnats du RSS. Seul le Dynamo Kiev a remporté 13 championnats. Et puis, c'est 10 championnats aussi de Russie à son palmarès. Donc c'est, en termes de palmarès, le plus important au niveau national. Après, on a ce côté, évidemment, supporter qui est très important au Spartak, avec une base de fans à travers l'ensemble du pays. Donc ce titre de club de populaire, il est toujours discuté en fait dans les médias entre le Spartak et le Zénith. Je dirais que le Spartak est historiquement le plus populaire, mais que le Zénith, de par ses succès en Coupe d'Europe ou depuis les années 2000, connaît aussi une grande popularité.
Ouais, donc le Zénith, c'est plus sur la période récente qu'ils sont en train de grimper en popularité, c'est ça ?
Absolument, absolument. Le club, en fait, c'est vrai qu'il n'a pris vraiment de l'essor qu'au début des années 2000. Donc, alors que le Spartak a quand même un historique extrêmement important au début des années 90 ou même à la fin des années 30 ou dans le milieu des années 50. Donc, c'est historiquement, oui, il est assez important.
Pour parler de l'aspect historique du Spartak, sans revenir sur toute l'histoire du club depuis 1922, peux-tu nous citer des périodes dorées et les deux, trois joueurs les plus marquants de son existence ?
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais citer trois périodes dorées, et dans chaque période, je vais dire un joueur marquant.
D'accord.
Bon, d'abord, on a les années 50, hein, une domination partagée entre le Spartak et le Dynamo Moscou. Le Spartak remporte quatre titres à cette époque-là, et elle possède des joueurs vraiment d'une grande qualité qui feront d'ailleurs partie pour la plupart de la victoire de l'URSS lors des JO de 1956 à Melbourne. Donc on peut citer Igor Nieto, Nikita Simonian, Alexei Paramonov, Anatoly Isaïev ou encore Anatoly Ilin, qui est d'ailleurs le buteur de la finale contre la Yougoslavie. Mais le joueur marquant, je pense que c'est Nikita Simonian, joueur emblématique de cette époque, meilleur buteur du club avec 160 buts. Et puis c'est une figure du football soviétique. Il fait partie des instances de la dirigeante de la fédération et il a toujours son mot à dire en ce qui concerne le football d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment un personnage. Ensuite, la deuxième période, c'est la fin des années 70 et les années 80. Donc là, c'est sous l'égide de Konstantin Beskov, l'entraîneur, qui met en place vraiment une identité de jeu. Hein, quand on parle du FC Nantes, on a ce football à la nantaise sous Jean-Claude Suédo et Reinaldo Noëx. Et là, c'est pareil pour le Spartak en fait. Le Spartak a mis en place cette identité de jeu à base de passes et de construction vraiment très 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 rapide. Cette identité de jeu, c'est confronté au même moment avec le Dynamo Kiev de Lobanovski, avec son jeu rapide à base de contre-attaque, notamment avec Blokhin. La confrontation Dynamo-Spartak à ce moment-là a été vraiment le centre vraiment de ce championnat. Et je pense qu'on peut donner vraiment un joueur important, c'est Fyodor Tcherenkov, qui est un milieu offensif, qui joua avec Igor Nieto le plus grand nombre de matchs au Spartak, avec 366 matchs, qui représente, je pense, cette fidélité du joueur au club. C'est un peu le Francesco Totti du Spartak. Hein. Il a d'ailleurs sa statue en face de la tribune sud, si vous voulez aller le voir. Hein. Il y a sa statue qui trône à côté du stade. Et la troisième période, c'est les années 90. Hein. C'est la domination quasi sans partage du début du championnat russe, avec quand même 9 titres jusqu'en 2001. Et là, c'est vraiment la patte Oleg Romantsev. Romantsev a mis en place son équipe. Il a évidemment eu un groupe de joueurs très intéressant, hein, avec notamment Dmitri Alenichev, il y avait Igor Titov. Voilà, il y a vraiment pas mal de joueurs. Alors, faut aussi dire, évidemment, à travers cette période, que la supériorité était dans le jeu du Spartak, toujours avec cette identité de jeu qui était vraiment la sienne. Mais on peut pas aussi omettre le fait que le championnat aussi n'avait pas beaucoup de concurrence à ce moment-là. Les clubs avaient eu du mal encore à faire la transition entre la période soviétique et la période russe. Donc c'est vrai que le Spartak l'a très bien faite, cette transition, et donc a pris vraiment le dessus sur le championnat dans les années 90. Le joueur marquant de cette époque, c'est Andrei Tikhonov. Donc Tikhonov, il est le joueur adoré des supporters rouges et blancs. Il est actuellement entraîneur du Krylia Sovetov en FNL, donc en deuxième division. Et il a connu l'ensemble de cette période dorée. Alors il n'a pas remporté le championnat 2001, mais il a remporté le reste. C'est un joueur rapide, c'est un joueur technique. Donc c'est vraiment un joueur vraiment à l'identité Spartak. Voilà. C'est un joueur emblématique du Spartak de cette époque et il a été de nombreuses fois décisif, donc évidemment adoré par l'ensemble des supporters.
Très bien, merci pour cet exposé extrêmement clair et précis. Et donc tu le disais, la dernière période dorée, c'est les années 90. Le Spartak a notamment décroché 6 titres de champion de Russie entre 96 et 2001. Pourquoi tout s'est brusquement arrêté ensuite?
Bah, tout simplement, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Déjà, il y a eu des problèmes divers, des mauvais transferts, des décisions des dirigeants qui ont été plutôt mauvaises, ou des conflits internes. Il y a eu aussi pas mal de changements d'entraîneurs, hein, à travers cette période. Notamment, voilà, dès qu'il y avait une suite de mauvais résultats, tout de suite l'entraîneur sautait. Donc évidemment, l'équipe était tout de suite déséquilibrée. Il y avait tout de suite un problème, ça s'enrayait. Et pourtant, cette période a connu quand même pas mal de bons entraîneurs. Hein. On a eu Mikhaïl Laudrup notamment et Unai Emery qui est passé à Moscou. Ça n'a pas pris, la sauce n'a pas prise à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est dommage parce que cette période-là aurait pu être bien meilleure. Alors on a quand même fini 5 fois deuxième lors de ces 16 années, mais avec aussi ce petit manque de réussite sur certains matchs, voilà, des petites fautes de gardien, des petites fautes, des choses qu'on aurait pu que le Spartak aurait pu mieux faire. Donc je pense que tout ça a fait qu'on a eu une absence de résultats assez importante.
Ouais. Et la saison 2016-2017 fut donc celle du retour au premier plan pour le Spartak, sacré champion avec 7 points d'avance sur le CSKA et 8 sur le Zénith. Bon, en tant que supporter, je suppose que tu rêvais de tout cela, mais sentais-tu que c'était possible en début de saison ?
Alors en tant que supporter du Spartak, oui, on espère toujours que ce soit la bonne année. On a toujours espéré que ce soit la bonne année, l'année du titre, tout simplement parce qu'en fait, à chaque année, on avait un nouvel espoir. Comme il y avait de nouveaux entraîneurs, un nouvel entraîneur, de nouveaux joueurs. Donc toujours cet espoir renaissait en fait au fil des années. Cette année-là, en fait, la saison 2016-2017, elle commence avec le même entraîneur, donc à savoir Dmitri Alenichev, et il a effectué un recrutement assez ambitieux. Alors là, on a notamment Roman Zobdin qui est arrivé, Andrei Yeshchenko, Fernando au milieu qui est arrivé, et on a eu aussi un changement au niveau du staff technique avec l'arrivée notamment de Massimo Carrara. Donc, il était adjoint d'Antonio Conte avec la sélection italienne. Et il est venu au Spartak au départ pour travailler vraiment avec la défense. C'est vraiment que c'était un des niveaux où le Spartak avait vraiment des difficultés, la défense. Dès le début de l'année, en fait, tout s'est déréglé avec cette élimination en phase de qualification de l'Europa League, avec cette défaite 1-0 contre le club chypriote de l'AEK Larnaca. Et là, donc, Dmitri Alenichev a quitté le club et à ce moment-là, vraiment, j'ai pensé en tant que supporter que ça allait être une nouvelle année de transition.
Tu as évoqué le nom de Massimo Carrara, ancien joueur de la Juventus notamment, qui a pris les rênes de l'équipe donc juste après le départ d'Alenichev. Est-ce que c'est lui, selon toi, le principal artisan de cette réussite ?
Oui, clairement. Hein. C'est pour moi le principal élément de ce titre. Carrera est arrivé, il a tout de suite mis les ingrédients qui manquaient au niveau sportif, à savoir un pressing haut et permanent tout au long du match, un jeu vertical rapide à base de contre-attaque et une force de caractère face au top club de la RPL. Et aussi contre des clubs de milieu de tableau avec des matchs, tu vois, toujours assez compliqués à remporter. Donc, il faut marquer ce but-là, ce but qui remporte les 3 points. Et le Spartak l'a fait durant cette saison. Et puis Carrera, il a su créer aussi une ambiance positive aussi au sein du groupe. On le sent, voilà, les joueurs vivent bien ensemble. Et son caractère italien, son caractère de guerrier, tu vois, un peu à l'italien. Il a amené aussi une méthode aussi italienne basée plus sur le travail tactique, et ça a sûrement joué évidemment sur le résultat final.
Bon, il y a l'entraîneur évidemment, mais il y a aussi les joueurs. Quels ont été les éléments majeurs du Spartak lors de cet exercice ?
Alors on peut citer évidemment Quincy Promes, hein, le joueur hollandais, qui est un joueur donc extrêmement rapide, technique sur le côté gauche. C'est vraiment un élément essentiel dans le jeu offensif du Spartak. Ensuite on a Fernando qui est arrivé donc début de la saison dernière. Donc Fernando, il était en provenance de la Samp et tout de suite il s'est intégré parfaitement. Ensuite, côté russe, on a évidemment Denis Glushakov qui a fait une excellente saison, peut-être même la meilleure saison au Spartak. Et puis en plus, c'est le capitaine de l'équipe, donc c'est vrai qu'il a un rôle vraiment de rassembleur. Vraiment, il rassemble à la fois les Russes et à la fois aussi les Brésiliens, parce qu'il y a pas mal de Brésiliens dans l'équipe.
Et parmi ces joueurs du Spartak, il y a des Russes, évidemment, et lesquels sont internationaux ? Tu as parlé de Glushakov, est-ce qu'il y en a d'autres ?
Il y a Kombarov, Dmitri Kombarov, qui joue arrière gauche, hein, qui est international. Et il y a aussi Georgi Gikia, qui normalement devrait être aussi un joueur important de la Sbornaïa. Il y a aussi Koutiepov, mais Koutiepov joue très peu au Spartak. Alors il joue un petit peu plus là depuis ces derniers temps. mais c'est vrai que Georgi Djika a pris vraiment le dessus sur Koutiepov, notamment au Spartak. Qu'est-ce que ce sera avec la sélection nationale? Ça, par contre, on ne le sait pas. Il y a aussi, évidemment, Roman Zobnin. Alors, Roman Zobnin a été blessé énormément pendant une longue durée, là, depuis l'été dernier. Et là, il revient. Il sera opérationnel pour la Coupe du Monde.
Concernant le mercato, est-ce que celui-ci fut agité ou plutôt calme à l'intersaison?
Non, justement, il a été assez calme en règle générale, dans le sens où aucun des éléments importants de l'équipe du titre, hein, comme on peut le dire, n'est parti. Donc en fait, on n'a fait que renforcer l'équipe vainqueur. Et donc on a renforcé avec un défenseur droit, notamment Petkovic, qui est arrivé de l'Étoile Rouge de Belgrade. Par un attaquant brésilien, Pedro Rocha du Grêmio. Et aussi par Pasalic en prêt de Chelsea. Alors c'est vrai que ces renforts n'ont pas toujours été convaincants dans le jeu, soit parce qu'ils ont eu peu de temps de jeu, ou notamment pour Pedro Rocha qui a un besoin d'adaptation au championnat russe. Mais c'est vrai que l'équipe n'a pratiquement pas changé. Et ça c'est plutôt intéressant. Ouais.
Et tu nous racontais que le Spartak était un club très populaire en Russie. Quel impact justement a eu ce titre à Moscou, voire dans le reste du pays? A-t-on eu droit à des scènes de liesse ou c'était plutôt une indifférence relative?
Concernant le Spartak, c'est jamais une indifférence relative quand même, étant un club quand même plutôt populaire au niveau du pays. Maintenant, les scènes de liesse se sont évidemment focalisées bien plus évidemment sur Moscou. Mmh. Donc pour les supporters du Spartak, c'était évidemment la délivrance, hein. Quand même 16 ans d'attente, c'est assez long pour un club qui est souvent habitué aux premières places. Et donc il y a eu notamment ce fameux envahissement de terrain à la fin du match contre le Terek qui a fait le tour des réseaux sociaux. Mais après dans le reste du pays, non, rien de particulier.
Maintenant faisons un petit bilan à la trêve de cette saison 2017-2018. Le Spartak est troisième à 8 points du leader, le surprenant Lokomotiv Moscou. Peut-on dire que le soufflet est retombé d'une certaine manière?
Pas forcément, parce que là, en fait, ils sont quand même maintenant troisième à égalité avec le Zénith, qui est deuxième. Mmh. Donc c'est vrai qu'ils ont eu un début de saison compliqué. Je pense qu'il est lié à plusieurs facteurs. Il a fallu digérer déjà le titre de champion et la victoire en Supercoupe de Russie contre le Lokomotiv. Cette impression positive, il a fallu la digérer, en fait. C'est vrai que les joueurs n'étaient pas forcément se remettre dans le contexte de la compétition. Il a fallu un petit peu de temps. Après, le jeu est resté le même. Hein. C'est de la saison du titre à la saison actuelle. Le jeu est toujours identique, hein, donc on voit toujours la même envie. Mais il y a eu ce manque de réussite, notamment dans ces fins de match où le Spartak a perdu vraiment énormément de points. Je pense que l'équipe soit a eu un manque de concentration ou a pensé qu'un 1-0 ou 2-0, ça suffisait pour remporter le match. Donc ils se sont fait avoir assez souvent, je pense notamment par exemple contre le CSKA ou face au Lokomotiv par exemple. Mais Carrera a toujours eu le soutien inconditionnel des dirigeants, et ça c'est important, et aussi des supporters, donc il a su remettre les choses en ordre, il a repris son groupe en main, et ça a permis au club de revenir dans la course au titre et de faire une très bonne fin de partie de saison.
Et qu'as-tu pensé du parcours du club en Ligue des Champions? Un parcours qui s'est conclu d'une manière un petit peu lourde sur une sévère déroute à Liverpool 7-0.
Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Alors, en général, le Spartak a atteint son objectif, hein, finir troisième. Je pense qu'au regard de l'expérience de Séville ou de Liverpool en Coupe d'Europe, il n'y a rien d'étonnant. Maintenant, c'est vrai qu'on aurait pu prendre cette deuxième place si le Spartak Moscou n'avait pas flanché deux fois en fin de match contre Maribor, qui est quand même l'équipe la plus faible du groupe. Donc la défaite 7-0 a fait évidemment mal, puisque c'est la pire défaite d'une équipe russe en Coupe d'Europe, hein, depuis une défaite du CSKA 6-0 contre l'OM, je crois. Je pense qu'on peut voir cette défaite un peu comme une volonté vraiment d'aller tout le temps à l'attaque. Il savait qu'il devait marquer ce but, qu'il devait remporter le match pour espérer la deuxième place. Et je pense qu'ils ont oublié de penser à cet équilibre attaque-défense. dont a besoin toute équipe de foot, hein, équilibrer l'attaque et la défense, c'est essentiel dans le football. Et ils ont totalement oublié cet aspect-là du jeu, et donc ils se sont pris une déroute. Mais bon, les supporters retiendront de toute façon la très belle victoire contre Séville 5-1 à la maison. C'est quand même une belle performance, battre un club espagnol 5-1, ça se fait pas toujours.
C'est effectivement bien plus positif. Et pour terminer, qu'espères-tu sur la deuxième partie de saison qui arrive ?
Bah, le Spartak est encore dans 3 compétitions. Hein. Donc l'objectif en Europa League, c'est de faire bonne figure. Ça commencera d'abord en février contre l'Athletic Bilbao. Donc maintenant, essayer de passer peut-être ces 16e de finale et après voir ce que ça donne. Parce que la compétition cette année est quand même très relevée. Hein. Il y a quand même pas mal de bonnes équipes. En championnat, je pense que j'attends du Spartak de bonnes choses. Pourquoi ? Bah parce que le Spartak a déjà joué quand même les 3 équipes du top 5, hein, avec 3 victoires à la clé, donc contre le Zénith, le CSKA et Krasnodar. Donc il reste en gros que le Lokomotiv dès la reprise, vraiment qui s'annonce être un gros match. Ensuite, contre les équipes de milieu de tableau, au bas de tableau, bah, faudra rester sérieux. Je pense que le Spartak a les armes pour au moins accrocher une place de Ligue des Champions. Ouais. Maintenant, aller chercher le Lokomotiv, alors évidemment, mathématiquement, c'est possible, mais je sais pas, je vois le Lokomotiv ressemble un petit peu au Spartak de l'année dernière, c'est-à-dire qu'il gagne contre des équipes de haut de tableau. Et ils ont cette grinta vraiment qui font gagner des matchs très serrés. Donc je vois bien le Lokomotiv finir champion cette année. Et puis il reste cette troisième compétition, c'est la Coupe. Alors là, tous les gros sont sortis. Hein, le CSKA a été éliminé, le Zénith aussi, le Lokomotiv aussi. Donc il reste le Spartak qui est quand même grand favori de la compétition. Alors je pense que le trophée de la Coupe est très clairement l'objectif principal, avec une place en Ligue des Champions au final. Donc c'est quand même un trophée qui échappe au Spartak depuis 2003, donc ce serait quand même bien de remporter cette coupe cette année.
Nous suivrons tout ça avec un certain intérêt. Ce sera tout. Merci à toi Vincent de nous avoir accordé ces longues minutes pour parler de ton club de cœur. À bientôt.
Au revoir.
Enchaînons dès à présent avec notre deuxième sujet. La nouvelle est tombée comme un couperet. Fin octobre vient un communiqué aussi lapidaire que déconcertant. Quelques jours seulement après avoir réussi à qualifier la Serbie pour la Coupe du Monde en Russie, Slavoljub Muslin est démis de ses fonctions de sélectionneur. Nous allons essayer d'y voir un peu plus clair avec Lazare, qui est justement avec nous. Salut Lazare.
Salut.
Bon, pour information, nous avons déjà brièvement évoqué ce sujet dans un précédent podcast, mais l'objectif, cette fois, sera d'aller plus loin dans l'analyse des causes de cette décision, pour le moins surprenante. Bon, Lazare, si tu le veux bien, revenons tout d'abord sur le parcours de la Serbie lors des éliminatoires. Les Serbes ont-ils dominé leur groupe de bout en bout ou leur qualification est-elle finalement un petit miracle ?
Donc la Serbie a fait 6 victoires et 3 nuls et une défaite lors de ses qualificatifs. Dans cette qualification, on va noter principalement 2 victoires qui ont lancé et qui ont fait énormément de bien à cette équipe, qui sont les victoires face à l'Autriche à domicile et la victoire en Irlande, 1-0 en Irlande. Donc ça, c'est les 2 points qui ont, on va dire, fait basculer la qualification serbe. Le reste du temps, ils ont fait 3 nuls. Et en fait, ces nuls leur ont apporté les points suffisants. Surtout, ils ont évité de concurrents directs, donc notamment le pays de Galles à ce moment-là, de prendre des points. Donc on est sur une qualification qui a été, on va dire, gérée, qui n'a pas été flamboyante, mais l'équipe a fait le travail.
Ça n'a pas été flamboyant, c'est-à-dire que le jeu proposé n'a pas non plus été extrêmement spectaculaire, ce que tu veux dire ?
En effet, le jeu était pauvre, avec une défense à 3 ou 5, comme on considère, et beaucoup de contre-attaques. Un jeu basé sur la contre-attaque, essentiellement. Ce qui fait que c'était pas flamboyant, c'était efficace. Ils ont eu de la chance de marquer de temps en temps, mais aussi de conclure et d'avoir très peu d'action et d'arriver à la mettre au fond. Mais le jeu ne faisait pas rêver, alors que c'est des joueurs qui ont quand même du ballon, qui ont une technique. Et certains ont reproché donc au sélectionneur son jeu, trop, efficace, certes, mais qui ne propose pas un jeu avec de la qualité qu'on devrait attendre de la Serbie.
Et parlons de Muslim, justement, il est arrivé sur le banc de la Serbie en 2016, après la non-qualification pour l'Euro. Quelles équipes avait-il entraîné auparavant? Quel était son parcours d'entraîneur?
Voilà, Muslim, déjà, on le connaît très bien en France, puisqu'il a la nationalité française, à force d'avoir joué et entraîné en France. C'est quand même quelqu'un qui a joué en France à Lille, à Brest, à Caen. Au niveau des équipes entraînées en France, il a entraîné à Bordeaux, au Mans, à Lens, mais il a aussi des expériences plus internationales au Lokomotiv Moscou, au Dynamo Minsk, Krasnodar, à Perm ou à Liège. Ça ne s'est pas très bien passé d'ailleurs. Enfin, la constante, c'est que ça ne s'est pas toujours très bien passé. Donc c'est quand même quelqu'un qui a du bagage international, quelqu'un qui a voyagé, quelqu'un qui a vu différents footballs. Il est arrivé poussé par celui qui était à l'époque vice-président de la fédération, Kokeza, qui est aujourd'hui le président. Et donc c'est un peu une ironie de voir celui qui l'a poussé le démettre de ses fonctions quelques mois plus tard.
Et il l'avait poussé pour un contrat plutôt longue durée ou une expérience qui devait être brève?
Non, l'expérience de 2 ans, format classique.
Format classique, très bien. Est-ce que c'était un choix parmi d'autres ou la fédération voulait vraiment le prendre lui?
Il y a eu une bataille de vice-président, une bataille de l'intérieur, une bataille de réseau sur qui prendre. Il se trouve que donc c'est Muslin qui a été pris parce que c'est quelqu'un qui a de l'expérience internationale, parce que c'est un Serbe et que c'était intéressant pour eux d'avoir un local avec ce niveau de technicité. Donc non, c'était pas vraiment une question de choix par défaut. Il aurait pu en avoir d'autres, il y avait d'autres concurrents. Au final, c'est lui qui a eu le poste.
Bon, et revenons-en au fameux communiqué que j'évoquais un peu plus tôt. Donc le 30 octobre, la fédération y annonce qu'elle est tombée d'accord avec Muslin pour une séparation, je cite, « par consentement mutuel ». Ce sont du moins les termes employés dans le communiqué en question. Cette information nous a beaucoup surpris, mais s'y attendait-on davantage en Serbie?
Alors, c'était dans l'air du temps depuis quelques temps que la fédération souhaitait se séparer de Slavoljub Muslin et la décision n'a surpris personne. Ce qui est plus étonnant, donc, c'est de se séparer à l'aube de la Coupe du Monde alors qu'il reste 2 matchs amicaux, donc la tournée en Asie qui a eu lieu, puis les quelques matchs qu'il y aura en cette année 2018 avant la Coupe du Monde pour se préparer, et la façon dont ça s'est passé, qui ont surpris et qui ont même choqué beaucoup de monde. Il y a eu des réactions de politiciens pour dire que ce n'était pas des façons de faire et que c'était un manque de correction. Alors, pour quelqu'un qui nous a quand même qualifié pour la Coupe du Monde, alors que ça fait plusieurs événements majeurs qu'on a ratés consécutivement.
Est-ce que c'était vraiment, selon toi, par consentement mutuel ou c'est vraiment la fédération qui a poussé pour le mettre dehors?
Ah non, c'est absolument pas un consentement mutuel. Kokeza l'a révélé récemment lors d'une interview à un journal serbe en disant qu'il veut. Quand il a joué, quand la Serbie a joué l'Autriche, tout le monde lui demandait pourquoi Arnautovic joue avec l'Autriche et pas avec la Serbie. Et le président Kokeza était bien gêné de répondre qu'à l'époque, le sélectionneur n'avait pas sélectionné Arnautovic. Bon, faut dire qu'aussi à l'époque, il n'était pas aussi performant qu'aujourd'hui. Et du coup, à force de ne pas être sélectionné par la Serbie, l'Autriche l'a appelé et il a fait pas. Écoutez, je préfère quand même faire une carrière internationale en Autriche qu'appeler un petit capel serbe. Et Kokeza avait peur que l'histoire se reproduise avec 3 jeunes talents serbes, à savoir Sergei Milinkovic-Savic, Veljković et Radonjić. Donc Sergei Milinkovic, milieu de la Lazio, très performant, un futur très très grand joueur. Veljković, défenseur en Allemagne, qui a la double nationalité suisse, et Radonjić, qui est l'ailier gauche de Savena Zvezda, prêté par l'AS Rome pour une durée de 2 ans, et qui arrivera donc à la fin de son contrat dans 2 ans, et Zvezda, il a déjà signé un contrat pour après avec Zvezda. Bon, c'est une histoire un peu complexe. Bon, tout ça pour dire que Kokeza avait peur que ces 3 joueurs prennent une nationalité différente, et c'est la raison officielle qu'il a donnée pour démissionner Slavoljub Muslin. Donc apporter du sang frais, parce que le Muslin, qui est quand même pas tout jeune, ne s'appuyait pas assez sur les jeunes à son goût.
D'accord. Donc ça, c'est vraiment la raison officielle. Est-ce qu'il y a aussi l'aspect du jeu qui n'était pas exceptionnel qui entre en compte ou pas?
Suivant les versions qu'on entend, suivant les jours, un coup ça a été important, un coup ça tout le monde s'en moque. Non, on est surtout sur une question d'ego. On a eu un conflit une fois que Meslin a été viré. Il y a une passe d'armes dans les médias entre lui et Kezman, qui est l'agent de Milinkovic-Savic. Et Meslin reproche en fait à Kezman d'avoir œuvré dans son dos pour le virer parce qu'il ne sélectionnait pas Milinkovic-Savic qui était son joueur. Et en tant qu'agent, il voulait voir son joueur en équipe nationale. Non, Meslin n'a pas trop aimé, il porte plainte pour diffamation. On verra si effectivement il porte plainte et ce qu'il en est. Mais en tout état de cause, cette histoire est louche et personne n'est vraiment parfait dans cette situation.
Oui, donc le conflit entre Mateja Kežman, qui est donc l'agent de Milinkovic-Savic, et Slavo Mouslin va se poursuivre devant les tribunaux, si j'ai bien compris.
S'il porte plainte, effectivement, il a dit qu'il portait plainte, on verra dans les faits comment ça se passe, oui.
D'accord, bon, c'est vrai que c'est une histoire un peu sombre et on sent qu'il y en a un qui a savonné la planche de l'autre. Enfin voilà, c'est un petit peu curieux cette histoire. Et ce Sergueï Milinkovic-Savic, dont on a beaucoup parlé suite à une rumeur faisant état d'un intérêt prononcé de la part du PSG, bon, une rumeur plus ou moins démentie, est-il si bon qu'on le dit?
Ah, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. C'est un bijou. C'est un joueur très fort. Il a surtout joué. Il a commencé en 10 à Vojvodina et en Belgique, avant de redescendre un petit peu en milieu central aujourd'hui. C'est un milieu relayeur porté vers l'attaque. Donc pas forcément le profil de Thiago Motta comme on en parle au PSG. Donc ça serait. Il faut quand même le dire que c'est pas le même type de joueur. Il est très grand, il fait 1m91, et c'est un joueur enfin, qui est né en 1995, donc il est encore très jeune, 22 ans. Il a un pied droit du tonnerre avec une capacité à faire des frappes de loin précises, c'est très fort. Et on le retrouve aussi un joueur qui est quand même très bon défensivement dans la façon de conserver le ballon, qui va être un très bon point pour envoyer des ballons longs devant, donc avec son physique avantageux. Donc c'est un futur très bon.
Et c'est typiquement le genre de joueur qui, s'il fait une bonne Coupe du Monde avec la Serbie en juin prochain, pourrait enflammer le mercato d'été, je suppose.
Ah mais c'est clair et net, on voit qu'il y a déjà quelques rumeurs pour le mercato hivernal avec des tarifs prohibitifs. Alors si après une Coupe du Monde où il se met en avant avec la Serbie, on peut taper des très très grosses sommes. D'où l'intérêt de Mateja Kečman de le mettre en avant et de le voir à la Coupe du Monde en Russie.
Bon, donc revenons-en à Slavo Mouslin, démis de ses fonctions le 30 octobre. Ensuite, il y a eu des matchs amicaux en novembre, donc une tournée asiatique, tu nous en as parlé. As-tu pu noter des changements justement lors de ces matchs amicaux de novembre?
Donc, Meslin a été remplacé à ce moment-là par Mladen Kajčić, son adjoint. C'est un ancien joueur du Partizan, de Schalke 04 et du Werder. Il a aucune expérience d'entraîneur ou de sélectionneur. Il a été donc juste son adjoint pendant 15 matchs. À la suite de ça, donc, il récupère cette équipe. Il continue avec un groupe à peu près similaire à celui de Meslin, mais en ajoutant quand même Sergueï et en rajoutant également Veljković. Donc on est sur, on va dire, on comprend l'intérêt d'avoir un nouveau sélectionneur à ce moment-là, pour prendre les joueurs qui comptent dans le futur, on va dire ça comme ça. Il arrive, lui, il passe sur une défense à 4, avec un 4-2-3-1 qui a du sens. Quand on connaît les joueurs serbes. Et cette tournée asiatique s'est soldée par une victoire face à la Chine 2-0 et un match nul face à la Corée du Sud 1 partout avec un pénalty pour la Corée du Sud qui est pour le moins extravagant. On dira ça comme ça. Donc, non, il a apporté de bonnes choses, c'était intéressant. Pour l'instant, dans le jeu, on n'a pas pu forcément en deux matchs. On ne peut pas voir grand-chose et on va devoir aussi attendre pour voir un petit peu le groupe qui se dégage ou en tout cas voilà les changements dans la continuité, sachant qu'aujourd'hui il est toujours sélectionneur temporaire. Mmh. Il n'a pas été confirmé dans ses fonctions. D'après les informations que j'ai pu avoir récemment, il y a deux pistes pour la succession de Mosley. Donc c'est soit Mladen Krstić est confirmé dans ses fonctions et est le sélectionneur pour la Coupe du Monde en 2018 en Russie sans aucune expérience préalable, ou ils arrivent à négocier quelque chose avec Dragan Stojkovic, dit Pixie, le coach de Guangzhou en Chine aujourd'hui, où Dragan aurait une double casquette sélection nationale plus équipe en Chine. Mais pour l'instant, c'est très compliqué. Cette négociation est menée directement par Kokeza et est très compliquée. Il faut d'abord motiver le sélectionneur, enfin le Stojkovic, et il faut aussi convaincre l'équipe chinoise. Pour l'instant, c'est pas gagné.
Oui, donc la fédération est encore dans le flou un peu total à ce moment-là.
Ah, on est dans le flou total pour à peu près tout, en fait. Les maillots n'ont toujours pas été montrés. La fédération est en train d'essayer de renégocier son contrat avec Umbro en disant « Coucou les copains, on s'est qualifié, bon, maintenant on aimerait bien un peu plus de cash. » Umbro dit « Bon, on était quand même les seuls à vouloir vous aider quand vous étiez au plus mal. » Donc voilà, c'est des négociations. Potentiellement, la fédération n'exclut pas de rompre le contrat avec Umbro pour aller voir sur le marché s'il y a des pays, des fournisseurs qui seraient prêts à mettre plus d'argent. Donc ça, ça rajoute à l'incertitude. Ils viennent d'annoncer le camp de base qui sera pas très loin de Kaliningrad, mais qui a été a priori trouvé à l'arrache. Et donc il y a cette histoire de sélectionneur qui reste en plan pour l'instant.
Et cette situation inquiète-t-elle les observateurs ou les médias serbes en vue du mondial qui approche ?
Pas plus que ça, et c'est presque malheureux parce que c'est une situation qui est connue et c'est des conditions de travail dans lesquelles beaucoup d'observateurs sont habitués, à laquelle beaucoup d'observateurs sont habitués. Et donc, oui, c'est pas idéal. Oui, on pourrait faire mieux, mais c'est la Serbie, on est habitué et donc c'est pas choquant.
Bah écoute, très bien, c'est sur ces mots que nous terminerons de traiter ce sujet. En tout cas, nous suivrons ce dossier avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup, Lazare. À bientôt.
Salut.
Je me permets d'apporter une brève mais importante précision. Quelques heures seulement après cet entretien, la fédération a officialisé le maintien de Mladen Krstajic au poste de sélectionneur, et ce, jusqu'au Mondial. La première option décrite par Lazare a donc été celle qui était choisie par les dirigeants serbes. Passons maintenant au troisième et ultime sujet de ce podcast de fin d'année. Pendant l'été, les transferts de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et surtout de Neymar ont inévitablement accaparé toute l'attention médiatique. Mais dans le même temps, les deux rivaux historiques de Prague, le Sparta et le Slavia, faisaient eux aussi preuve d'une activité inhabituelle afin d'attirer des joueurs que l'on imaginait pourtant très mal évoluer en République tchèque. Pour évoquer tout cela, j'ai l'honneur de vous présenter le rédacteur en chef de Footballski, notre leader suprême à nous, Pierre. Bonjour Pierre et bienvenue.
Salut Raphaël, merci pour l'accueil.
Donc Pierre, tu es le père fondateur de Footballski, un site que tu gères depuis près de 4 ans maintenant. Ton amour inconditionnel pour la Slovaquie de Robert Vitek t'a conduit à t'intéresser également à la République tchèque, les deux pays étant historiquement très proches. Je ne dis pas de bêtises jusque-là.
Pour l'instant, ça va, t'es bon, t'es pas viré.
Ça marche, tant mieux alors. Alors, entrons dans le vif du sujet et avant tout, donnons quelques éléments de contexte. Bon, même si le Slavia Prague a été sacré champion en 2017, on est d'accord pour dire que la suprématie des deux clubs de la capitale a quand même été sérieusement chahutée ces dernières années par le Viktoria Plzeň, n'est-ce pas ?
Alors oui et non, pour le Slavia, c'est assurément une nouveauté pour eux de remporter le championnat, étant donné qu'ils ont connu un passage à vide assez important dans les années 2000. Pour le Sparta Prague, par contre, ils ont quand même toujours été au top du championnat tchèque. Ils ont trusté les premières places, que ce soit la première ou la deuxième, ils ont toujours été en concurrence avec le Viktoria Plzeň. Après, t'as le Viktoria Plzeň qui, lui, est arrivé en 2010 avec l'ère Pavel Vrba, qui est de retour au club. Et là, le Viktoria Plzeň, lui, a bousculé, on va dire, la hiérarchie tchèque et en mettant une sérieuse concurrence pour le Sparta Prague, voire le Slovan Liberec, qui était avant le dauphin du Sparta à un moment donné. Mais tout ça, ça s'inscrit, on va dire, dans l'histoire, de toute façon, du football tchèque et tchécoslovaque, on va dire. Puisque d'année en année, de siècle en siècle, si tu veux, il y a toujours eu une hiérarchie assez claire qui s'est formée dans le football tchèque et tchécoslovaque, où il y a toujours eu un club qui dominait pendant une certaine période. Et donc, par exemple, au début du football tchécoslovaque, tu avais le Slavia et le Spartak qui se partageaient les premières places. Après la Seconde Guerre mondiale, tu as eu le Slovan Bratislava, le Dukla Praha, vu que c'était le club de l'armée communiste. Tu as eu le Spartak Trnava dans les années 70. Tu as eu le retour du Spartak Prague qui, après lui, a trusté tout le début du championnat tchèque, à partir de l'indépendance, donc. Et tu as eu le Slavia Prague qui est revenu à peu près au milieu des années 2000, en 2007, 2008, 2009. Et puis malheureusement pour eux, il y a eu une grosse chute avec des problèmes financiers importants, des problèmes sportifs. Et tandis que le Sparta Prague, lui, a toujours réussi à tenir, on va dire, une cadence assez importante dans le haut niveau et dans la hiérarchie du football tchèque en étant souvent premier. Malgré les déroutes, on va dire, du Slavia Prague, les deux clubs restent historiques et sont les deux plus importants du pays.
D'accord. Et justement, quelle importance donner au championnat tchèque, la Pervenu Liga ? Est-ce une compétition qui suscite un certain intérêt avec la venue, par exemple, de joueurs étrangers, un public important à chaque match, ou qui reste globalement confidentielle ?
À l'étranger, je ne pense pas qu'il y ait un intérêt particulier pour le championnat tchèque. Si ce n'est pour les nouvelles venues, là, on va en parler, je pense. Mais après, sur le plan national, tu as toujours, on va dire, les clubs historiques. Donc, comme je le disais, tu as le Slavia et le Sparta, où là, tu as une grosse base fan et ultra importante. Tu as le Victoria Pilsen aussi, qui s'est forgé quand même, avec les succès aussi, mais qui s'est forgé quand même une sacrée base de fans et d'ultra. Et puis tu as surtout le Baník Ostrava, de toute façon, qui est un club historique du football tchèque, malgré sa chute, que ce soit en D2, et ses problèmes sportifs, financiers, et toutes les galères qu'ils ont pu connaître. Le Baník Ostrava, ça reste quelque chose. Et ça représente surtout un énorme pan de la culture et de l'histoire du pays, hein, en général, que ce soit sportif, mais même l'histoire même du pays avec la Moravie, la Silésie et la Silésie.
Oui, le Baník est d'ailleurs remonté en première division cette saison et qui lutte pour le maintien, il me semble.
Oui, ils sont avant-dernier et c'est une saison un peu galère pour eux, mais après, bon, on s'y attendait quand même. On va dire que c'est compliqué pour le Baník.
Voilà, bon, c'est pas tout à fait le sujet du podcast du jour. Peut-être que nous y reviendrons dans quelques semaines, voire quelques mois. Donc maintenant, intéressons-nous vraiment au Slavia Prague. Cet été, le club s'est quelque peu fait remarquer en recrutant des joueurs tels que Dani, Roslan Rotan ou encore Halil Altintop, des internationaux assez expérimentés. Comment expliquer cet emballement ?
Le Slavia Prague est dans une nouvelle ère, en fait. Donc déjà, comme tu l'as dit, il y a eu le titre de champion. Qui a été un renouveau pour le club. On s'attendait pas à ce que le titre arrive aussi vite, donc parce que il y a eu le rachat du club par CEFC, donc qui est un groupe d'investissement chinois qui a donc racheté le club en 2015. Et donc ce renouveau s'est fait à partir de l'argent venant de Chine. Le but étant donc de montrer la puissance financière du club donc sur le plan national et international, parce que le premier intérêt donc de CEFC, c'est d'abord de remporter le championnat, mais c'est surtout après de faire ça son trou sur la scène européenne. Cette année, ça a été plutôt compliqué par contre. Pour l'année 2017-2018, on l'a vu en Ligue des Champions, donc le club n'a pas réussi à se qualifier pour la phase de groupe. Et après, donc pour la phase d'Europa League, la phase de groupe d'Europa League qui vient de se terminer il y a quelques semaines, le club a été défait par Astana et donc n'est pas qualifié pour la suite de la compétition. Et là, pour l'instant, ils sont deuxième du championnat avec quelques difficultés, ils ont changé de coach, etc. Donc la saison de la confirmation n'est pas encore arrivée, mais le Slavia Prague, ouais, c'est particulièrement bien entouré. Après, dans le recrutement, il y a eu quelques défauts quand même. Il y a eu Dani, qui est la meilleure recrue, je pense, avec Thomas Nesit, qui est revenu au club, qui est un enfant du club, qui a été formé là-haut, et qui là, a fait son grand retour dernièrement. Mais c'est peut-être lui, au final, aussi la meilleure recrue, alors que ce n'est pas forcément le joueur le plus clinquant sur le papier.
Et donc, reparlons un petit peu de ces investisseurs, ces propriétaires chinois. Ils sont à la tête du club depuis 2015, il me semble. Et ils ont voulu vraiment passer à la vitesse supérieure cette année. J'ai vu qu'ils avaient aussi acheté le club acheté le stade du Slavia Prague.
C'est ça, ils ont acheté l'Eden. En fait, ils ont acheté le club en septembre 2015, exactement. quand le Slavia était insolvable et en état quasi de mort clinique, hein, ils avaient vraiment des gros gros problèmes sportifs et financiers. Et CEFC, en fait, si tu veux, c'est donc la sixième plus grosse société privée en Chine, qui est devenue donc l'actionnaire au départ majoritaire du Slavia Prague en 2015 avec 60% des parts, et qui l'a racheté donc il y a un an à peu près les 20% restants. Et donc là, ils sont à peu près à 99,95% et des brouettes de la part d'actionnariat au Slavia Prague. Donc après, le but de CFC est assez vaste, c'est pas forcément que sportif, dans le sens où, si tu veux, la Chine et la République tchèque ont des relations assez particulières et assez étroites au point de vue financier. Et donc il y a beaucoup de coopérations qui sont mises en place. Donc cette opération, elle a un certain sens pour les Chinois parce que donc ils ont le but de s'étendre sur le marché européen à travers ces achats. Donc CEFC a à la fois acheté donc le Slavia Prague, mais aussi des biens immobiliers. Ils ont acheté des parts dans une brasserie en République tchèque où ils font exporter de la bière en Chine. Du coup, ils ont réussi à racheter des parts chez JET, qui est une société en Slovaquie. Qui lui contrôle le Sparta Prague. Donc c'est là qu'on voit aussi la dualité et les liens assez étroits entre les clubs qui se font même dans les investissements. Donc en fait, CEFC, quand il rachète le Slavia Prague en 2015, c'est pas forcément pour le sport, mais c'est plus pour l'image, si tu veux. C'est un but parce que forcément, le Slavia Prague en République tchèque, c'est quelque chose qui est connu, et si tu veux être connu en République tchèque, faut investir aussi là-dedans.
Ouais, donc c'est pas un investissement isolé, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans une stratégie plus globale.
Tout à fait.
Ouais, c'est ça, ouais.
Ça s'inscrit, ouais. En fait, en 2015, j'ai pas les chiffres pour les nouvelles années, mais en 2015, il y a eu 10 milliards d'investissements de CEFC en République tchèque, ce qui est quand même conséquent. Ça a été fait dans les logements, dans les entreprises. Ils ont même fait un centre de médecine chinoise traditionnelle. Ils ont exporté de la bière, comme je te l'ai dit. Et donc tout ça, c'est lié en fait à un homme en particulier qui est Jaroslav Tvardik, qui était l'ancien ministre de la Défense au début des années 2000 en République tchèque. Donc lui, c'est un supporter du Slavia Prague, qui, à travers ses liens, en fait, a monté une coopération mutuelle, si tu veux, entre la République tchèque et la Chine. Et tout ça, ça s'inscrit aussi sur un autre pan sportif, c'est les Jeux Olympiques d'hiver de 2022 à Pékin. Parce que donc la Chine a demandé en échange aussi de tous ces investissements que le savoir-faire des Tchèques en matière de hockey sur glace et de biathlon vienne les aider pour concurrencer justement toutes les nations là et que le sport chinois puisse rayonner pendant ces JO d'hiver 2022, si tu veux.
Ah oui, d'accord, donc on se projette jusqu'aux Jeux d'hiver 2022, est-ce que
ouais,
ça
ouais,
veut dire qu'on aura
des... C'est quelque chose de très très réfléchi au final,
d'accord.
C'est pas que le Slavia Prague. Et puis d'ailleurs, tu vois ça aussi à travers Pavel Nedved qui est arrivé, qui a lancé une académie en Chine et qui est le nouvel ambassadeur du football chinois, donc c'est quelque chose d'assez large. Et même dernièrement, en novembre de cette année, t'as le Slavia Prague qui a convenu d'un accord avec l'association de football chinois pour la création du premier centre de formation de la jeunesse chinoise en Europe. Donc en fait, le but, c'est de faire venir des clubs, enfin les équipes nationales, les jeunes équipes nationales de Chine, pour les faire jouer des tournois européens avec les infrastructures des clubs européens. Donc là, en l'occurrence, ce sera le Slavia Prague qui est le premier club. Donc ils donnent, enfin ils prêtent leur terrain, leur stade et puis leurs infrastructures pour faire jouer des matchs entre les équipes de jeunes chinoises et puis donc des clubs européens. Il y aura l'Hajduk Split, la Juve et puis le Celtic notamment.
Pour revenir à l'autre club de Prague, le Sparta, lui non plus n'est pas resté dans l'ombre cet été et a tiré des joueurs que l'on connaît plutôt bien comme Rio Mavuba ou d'autres un peu moins comme Jonathan Biabiani, Marc Janko ou Georges Mandžek. Certes, leurs plus belles années semblent derrière eux, mais pour le championnat tchèque, c'est quand même très ambitieux, non?
Sur le papier, ouais, c'est quand même des joueurs qui sont connus du grand public. Enfin, surtout pour nous, on va dire Rio Mavuba, Biabiani, Mandžek, on les connaît. Mais après, sur le terrain, par contre, c'est un désastre. Enfin, c'est un flop. Hein.
Ah oui, à ce point-là?
Ouais, pour le coup, ouais, le Sparta Prague a dépensé énormément d'argent, mais n'a pas vraiment réussi à trouver l'alchimie sur le terrain et à faire une équipe compétitive. Hein. Tu vois d'ailleurs, là, ils sont cinquième, ils ont 28 points. Ils sont pas trop loin du Slavia Prague encore, ça va, ils sont pas décrochés, mais c'est très très poussif dans le jeu.
D'accord, et il y a un flop particulier parmi ces recrues ou c'est l'ensemble qui marche pas du tout?
Je vais peut-être être méchant, j'espère qu'il nous écoute pas, mais il y a Rio Mavuba qui quand même est très très loin de son niveau. Tu sens qu'il avait pas forcément, même dans sa conférence de présentation, bon, il cachait pas trop son enthousiasme, j'ai envie de te dire. Après, c'est le risque d'acheter des joueurs comme ça. Les joueurs viennent plus pour l'argent que pour le football. Après, il y a quelques transferts qui sont pas trop mauvais, mais Marquinhos par exemple, c'est un flop. Bon, après, il a très peu joué pour l'instant. Et surtout, le plus gros flop pour moi, c'est l'entraîneur, Stramaccioni, qui est venu justement avec toutes ses arrivées et qui lui a été pris en grippe très rapidement par les supporters du club. Hein. Quand tu vas voir un match du Sparta Prague, tu peux entendre des Italiano vaffanculo. Je te fais pas la traduction, mais
non, c'est pas la peine.
Et tu comprends très vite le climat qui s'est installé progressivement dans le club à partir de là, en fait. Et les supporters ont quand même du mal à comprendre la direction qu'a souhaité prendre le club à travers tout ça, parce que acheter plus de 10 joueurs dans un mercato, alors que bon, t'as une base, on va dire, plus ou moins potable. Si tu veux, le Sparta Prague, pendant des années, s'est reposé sur un noyau dur assez solide, composé de joueurs tchèques et internationaux, et a souvent recruté des troisièmes couteaux du championnat tchèque. Et là, avec le Slavia Prague qui a fait quand même des gros investissements, avec le Viktoria Plzeň aussi qui est toujours là, donc le club a voulu se renforcer, mais je pense que ça n'a pas forcément été de la meilleure des manières.
Mais qu'est-ce qui a pu attirer ces joueurs au Sparta? Que sait-on du projet du club?
Ben, on ne sait pas grand-chose, en fait. Si, on sait que bon, le Sparta continuer à rayonner sur le plan national et plus ou moins sur le plan international, même si on sait très bien qu'il gagnera jamais une Europa League, par exemple. Après, le but, c'était vraiment de concurrencer, je pense, le Slavia Prague, tout simplement, parce que la rivalité entre les deux clubs est telle que c'est compliqué pour le Sparta Prague, quand tu es considéré comme le plus grand club de République tchèque, le plus fort, que tu as toujours mis ton image là-dessus. Tu as été valorisé comme ça, et de voir que tu perds du terrain, je pense que ça passe très très mal. Après, il y a de l'argent quand même au Sparta Prague, hein. c'est pas un club pauvre, et on l'a vu d'ailleurs, parce qu'ils ont fait quand même de gros investissements. Mais la question est pourquoi ils ont fait de tels investissements, et est-ce que c'était vraiment réfléchi au final?
D'accord, et donc le troisième gros club de République tchèque, le Viktoria Plzeň, lui s'est fait plus discret à l'intersaison. Visiblement, c'était une tactique payante, puisque leur début de saison est presque parfait.
Oui, même plus que parfait là. C'est le meilleur début de saison qu'on a pu voir en République tchèque depuis très très longtemps. Après, ils ont été discrets, oui et non. Ils ont recruté Pavel Fba, comme je t'ai dit. C'est le retour du, enfin, c'est l'idole là-haut, c'est lui qui a fait tous les succès du Sparta, du Viktoria Plzeň, pardon. Et c'est peut-être d'ailleurs le plus beau transfert de la saison au final. Après, t'as quand même, bah, si tu veux, le Viktoria Plzeň, lui, ça, contrairement au Sparta Prague qui a une démarche de recrutement assez floue, le Viktoria Plzeň, on sait très bien vers où ils veulent aller, c'est-à-dire qu'ils recrutent des jeunes Tchèques qui veulent faire monter, tout en gardant un noyau dur qui est là depuis des années. Donc, t'as un noyau dur qui est présent depuis les titres de 2010, t'as Limberski, Upnik, Kozacic, Vaclav Pilar, etc. Et puis à côté, t'as des jeunes qui montent. Le meilleur exemple, c'est Kremchik, qui est meilleur buteur du championnat actuellement. Et puis t'as d'autres, là ils ont recruté cette saison, cet été, Tchermak, qui vient du Sparta Prague, qui était un gros espoir du Sparta Prague, qui n'a pas forcément percé là-haut, mais qui reste assez jeune et qui a du talent dans les pieds au final. Donc c'est vraiment ça le but du Viktoria Plzeň, c'est de faire éclore des jeunes joueurs tchèques tout en gardant une structure et un noyau dur très très solide avec de vrais leaders. Et je pense que c'est une bonne alchimie au final.
Oui, donc c'est une autre stratégie sur le long terme, effectivement. Et oui, juste pour préciser, le Viktoria Plzeň, depuis le début de la saison, en 16 matchs, c'est 15 victoires, un match nul et donc aucune défaite. Bon, effectivement, c'est difficile de faire mieux. Alors, meilleure attaque, meilleure défense, oui, d'accord.
Défense.
Alors, Pierre, avant de te remercier, j'aimerais juste que tu nous fasses un petit bilan de l'année écoulée sur Footballski. Est-ce que ça a été une bonne année selon toi?
Ça a été une année de transition, je pense. C'est avant la Coupe du Monde, on a lancé quelques projets. Je pense que la plupart des lecteurs ont pu voir qu'on se focalise justement pas mal sur cette Coupe du Monde. On a lancé beaucoup de séries actuellement, que ce soit sur les anciennes républiques d'Union soviétique, sur les pays qui ne sont pas qualifiés. Donc là, on sort beaucoup d'articles là-dessus. Après, on a eu quelques passages à vide, mais globalement, l'année est plutôt positive, surtout la fin d'année, justement. Puis après, on a eu quelques déroutes, on va dire. On a essayé d'avoir un partenariat avec un club macédonien qui n'a pas été forcément très fructueux vu que le club est actuellement mort. Donc c'est compliqué pour nous. Et puis voilà, après on diffuse toujours du championnat polonais sur le site. Je pense qu'on fait pas mal de choses avec nos moyens, donc c'est plutôt positif tout ça.
Et on a lancé un podcast.
Et on a lancé un podcast en plus qui est plutôt bien.
Et est-ce que tu peux teaser nos lecteurs et auditeurs sur les projets éventuellement prévus pour 2018?
Alors, 2018, comme je disais, c'est une année de Coupe du Monde pour nous en Russie, donc on va déjà s'attacher à la couvrir du mieux possible, comme on avait pu le faire avec l'Euro, mais on a à peu près de tête, je pense qu'on a plus de 200 articles à sortir, c'est conséquent. On a déjà commencé là, comme je disais, mais il y en a encore qui vont arriver. On va vous faire gagner quelques jeux, quelques cadeaux, pardon.
C'est pas mal ça.
C'est pas mal. On met les moyens. Et puis, en mars prochain, normalement, on devrait faire une apparition à la Sorbonne. Je dis ça, je dis rien. Mais si vous voulez nous voir, une conférence va sûrement voir le jour prochainement. On mettra toutes les informations une fois que c'est confirmé, mais en principe, on a été invité pour ça.
Eh bien, c'est un vaste programme. Merci beaucoup Pierre et à bientôt.
À bientôt.
C'est la fin de ce huitième et dernier podcast de l'année 2017. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez surtout pas à commenter et à partager sur les réseaux sociaux. On se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle émission. De la part de l'ensemble de la rédaction de Footwalski, je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2018.